BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est votre séance cardio de l'après-midi, oui, votre séance cardio rien qu'à vous, et en fil rouge pour vous accompagner dans cette séance et vous coacher. Il est là, Antoine Larigauderie. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Votre mot du jour.
Eh ben, on va parler de statistiques, hein, avec notamment le CAC 40 qui grimpe de 0,1% à 8376 points en route vers son meilleur trimestre en deux ans. Du côté de Wall Street, plus 0,76% pour le Nasdaq, plus 0,03% pour le Dow Jones, le S&P 500, plus 0,37%. Wall Street qui court vers son meilleur deuxième trimestre depuis 2020. Et du côté de l'once d'or fin, c'est sans doute la route toute tracée vers le pire trimestre en 13 ans. L'once d'or fin perd 13% sur la période et en ce moment, on est à 4 045 $ l'once.
On va en parler bien sûr avec nos experts, tirer les leçons de ce trimestre, donc l'un des meilleurs qu'on ait vécu, en tout cas à Wall Street, le meilleur depuis 2020, sur le Stoxx Europe 600 aussi, qui gagne plus de 10%. Est-ce que le deuxième semestre pourrait nous offrir le même genre de performance? Ben, on va poser la question. En tout cas, on a une inflation qui recule nettement. Ça, c'est peut-être de bon augure ici en zone euro. On aura demain le chiffre de la zone euro, mais d'ores et déjà, l'inflation française, l'inflation allemande ont été publiées. Elles ressortent sous les attentes aujourd'hui, ce qui est plutôt encourageant et entraîne d'ailleurs l'euro à la baisse face au dollar. On verra ce qu'en disent aussi cet après-midi les banquiers centraux, toujours réunis à Cintra. Et à 17h35, tout à l'heure, notre portefeuille idéal. On parlera notamment d'Abivax qui rassure. Le titre gagne 39% aujourd'hui. Détails supplémentaires à suivre aussi avec Kathleen Gaillot qui va nous rejoindre. BFM Bourse sur toutes ces batailles de marché et BFM Business sur l'ensemble des grandes actualités. À suivre aussi le livret A. Il va augmenter le livret A à partir du 1er août. Une annonce de Roland Lescure. Il s'agit de l'adapter à l'inflation, sachant qu'au premier semestre, la rémunération était inférieure à l'inflation. La taxe sur les petits colis mise en place en France sera supprimée. Ce sera à partir de demain, 1er juillet. À cette date, elle sera remplacée par une taxe européenne censée réguler l'afflux de petits colis en provenance des plateformes chinoises essentiellement. Et puis la compagnie aérienne SAS va acheter jusqu'à 40 Airbus A330. 130, commande estimée à plus de 10 milliards de dollars. Une commande qui marque un tournant après les années de difficultés financières pour la compagnie scandinave qui s'apprête à passer quand même dans le giron d'Air France KLM. On en parlera davantage et plus d'analyse aussi tout à l'heure dans 18-19 et 10 Chevrillon. D'ici là, c'est BFM Bourse. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Antoine, ben on est encore dans le vert aujourd'hui sur les marchés. Ça continue.
Oui, plus 0,1% pour le CAC, plus 2,23% pour l'Euronext Tech Leaders, la tech européenne qui est encore en forme à l'image de ST Microelectronics qui gagne 2,69% à 65,29. ST Microelectronics qui sera la meilleure performance du CAC 40, mais aussi du SBF 120 au terme de ce trimestre qui s'annonce à la clôture. Plus 134% quand même pour le spécialiste des semi-conducteurs. Et puis à signaler, alors de véritables tirs groupés, on a quand même l'industrie qui est quand même très bien orientée du côté du CAC 40. On a du plus 3,3% pour ArcelorMittal à 53,22€. Stellantis, plus 2,57 à 5,02€. Schneider Electric, plus 2,57 à 285,25€. En revanche, tir groupé là aussi, mais à la baisse, très impressionnant, du secteur du luxe. On a Kering notamment, il y avait une conf call investisseur hier soir. Et puis Citigroup qui a décidé de rester neutre sur le titre, mais en réduisant son objectif de cours. Et alors la réaction est assez spectaculaire. Hein. Kering perd 7%, 246,65€. LVMH suit à moins 2,66€. 479,20€. Hermès pas loin, à moins 1,73€. 1,187,50€. Plus forte baisse du SBF 120 et on va en reparler. TP, téléperformance, moins 11%, 46,32€. Encore une séance bien difficile. Et Abivax signe la plus forte hausse, s'envole de 39,9% à 116,50€. Derrière, on a Mersen, hein, qui est bien orienté, qui signe une des plus fortes hausses du trimestre et qui gagne 10,5% à 41,46€.
Alors, on n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais on va rebondir sur tout ce que vous venez de nous dire. Et Mersen, on va démarrer sur Mersen parce qu'il se trouve que c'est une valeur dont Kathleen Gaillot a, sur laquelle elle a beaucoup d'idées, Kathleen Gaillot pour Kepler. Bonjour Kathleen, on arrive ravi de vous retrouver. Et ce titre Mersen, effectivement, bonjour, figure parmi les valeurs les plus entourées aujourd'hui. Quel regard vous portez? Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi et jusqu'où?
Absolument, c'est une valeur qu'on pousse depuis plusieurs mois et plusieurs trimestres désormais, sur laquelle on publie une note ce matin, une note à l'achat dans laquelle notre analyste Thomas Renaud relève son objectif de cours. On voit 40% de potentiel d'appréciation. C'est l'exposition croissante au data center de Mersen qui donne beaucoup d'espoir au marché, qui laisse entendre que l'objectif qui a été fixé par la société pour 2029 est atteignable et le consensus se situe aujourd'hui très en dessous des ambitions du management. Donc pour nous, ce développement dans les data centers crédibilise très clairement cet objectif, devient un nouveau pilier de croissance et c'est ce qu'on détaille dans la note qui est publiée aujourd'hui. En termes de valorisation, c'est un titre qui est très attractif puisque pour une croissance moyenne des BPA qu'on attend au-delà de 25% sur les trois prochaines années par an, on a un PE qui se situe juste à 10 fois et un free cash flow yield autour de 7-8%. Donc très clairement, ce qu'on appelle une valeur GARP, donc croissance à une valorisation toujours très raisonnable.
Ce titre, on va le regarder. Mersen, donc aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent à la radio, on est aussi en télé. Et là, vous le voyez sur la séance du jour, signé un beau bond à plus 10,5, 41,48 € sur 6 mois. On est à plus 76 désormais sur Mersen. Antoine.
Mais oui, c'est la troisième meilleure performance du SBF 120 sur le trimestre écoulé. On a une progression de 87%, juste derrière ST Microelectronics et Soitec. Troisième Mersen, l'ex-Carbone Lorraine, vous vous souvenez ? Ça s'appelait comme ça.
Ah oui, c'est vrai.
Et ça dit bien ce que ça veut dire. C'est vraiment les matériaux de base raffinés pour l'industrie électrique et pour l'industrie en général.
Abivax, vous l'avez cité Antoine, plus 39%. Là-haut. Ouais. On va regarder cette valeur aussi. Ah là là, sous nos yeux, Abivax, plus 39 d'un coup. Une falaise qu'on est en train de monter. Là.
Vous avez vu sur un an sur 1761%.
Attendez, la hausse d'Abivax sur un an, 1761%. Et qu'est-ce qui, Kathleen, après cette hausse incroyable sur un an, justifie ce plus 39? Ils ont apporté des précisions sur un de leurs traitements qui avait fait s'effondrer la valeur début juin. Puis là, on est en train d'un coup de rebondir. Pourquoi et est-ce que ça ne va pas trop vite, trop?
Absolument, c'est ce que j'allais souligner, Guillaume, quand on regarde votre graphique. Et si on zoome sur la période très récente, on a eu un recul assez significatif plus récemment à cause de données de sécurité qui n'avaient été pas très bonne. Donc en fait là, on a les résultats de la partie 2 d'une étude de maintenance de phase 3 qui fournit des données de sécurité supplémentaires, un enrichissement de la base de données pour interpréter ces données de sécurité d'emploi. Et c'est plutôt positif, les données de tolérance, c'est-à-dire de maîtrise des risques et de cancer potentiel sont dans les normes attendues. Donc ça lève selon nous la dernière incertitude très forte sur le dossier, ça augmente, donc on augmente les probabilités de succès dans notre modèle, nos hypothèses commerciales, et donc on relève très significativement notre objectif de cours aujourd'hui. On attend un titre qui, sur les niveaux de clôture d'hier, pouvait encore plus que doubler. On a plus 30% aujourd'hui, ça veut dire qu'il reste encore un potentiel assez significatif. On se trouve très clairement en fourchette haute de la valorisation de 12 à 20 milliards qu'on évoquait en début d'année.
Oui, donc pour vous, plus 39, ça n'a rien d'excessif, et cette hausse pourrait être même encore plus importante par la suite. Abivax, qu'on continuera d'évoquer dans la suite de l'émission, bien sûr, papier et article consacré à Abivax à retrouver aussi sur notre site bfmbourse.com. Et puis Kering, à l'inverse, qui recule, lanterne rouge du CAC 40, on va le regarder, ce titre Kering, il perd 7% cet après-midi, 246,55 €. Il semble que les derniers échanges, en fait, entre la direction investisseur de Kering et les investisseurs, justement, derniers échanges avant la publication à venir, et un petit peu rafraîchi les espoirs de certains investisseurs. C'est sur ce dernier call entre la direction investisseur de Kering et les investisseurs eux-mêmes que tout s'est joué, que cette baisse s'est nouée aujourd'hui, d'après vous, Kathleen ?
Oui, ce sont les previews, les attentes pour la prochaine saison de publication à partir de mi-juillet. On attend seulement une très légère amélioration de la croissance au T2. Pour rappel, on était stable au T1. On anticipe plus 100% grâce à Gucci, mais la Chine reste faible. Les US sont assez solides. L'Europe et la PAC hors Chine commencent à s'améliorer un petit peu, mais ça reste modeste. Surtout, la marge au S1 restera sous pression et finalement, il va falloir un peu plus de patience sur Kering. Et c'est le T3 qui probablement marquera le point d'inflexion du turnaround. Donc voilà, peut-être un petit peu plus de patience requise, mais ça reste pour nous une forte conviction de cas de turnaround, de redressement dans le luxe.
Kathleen Gaillot avec nous, qui est Pierre Chevreux. Merci beaucoup, Kathleen, de nous avoir accompagné. Le CAC 40 gagne 0,1%. Une idée en plus pour vos portefeuilles. Salim Alaoui nous rejoint pour Moneta. Bonjour, Salim.
Bonjour.
Vous avez 2 minutes 30, Salim, pour nous présenter un titre britannique dont le nom... Je vais vous laisser prononcer le nom de cette valeur, parce qu'il se trouve que dans BFM Bourse, on n'en avait pas encore parlé, je crois, et vous allez nous la présenter. De quel titre s'agit-il ?
Alors, c'est de IMI. IMI, c'est un groupe industriel britannique, spécialiste mondial du contrôle des fluides. Concrètement, ils fabriquent des vannes techniques, hein, pour penser à des robinets de très haute précision qui régulent le débit et la pression dans des installations critiques, comme des centrales électriques, des raffineries, des terminaux gaziers, mais aussi des systèmes de chauffage, de bâtiments ou des data centers. Leur produit ne représente qu'une petite fraction du coût total d'une installation, mais il est absolument vital à son bon fonctionnement et à sa sécurité, comme vous pouvez l'imaginer. Et l'entreprise a été complètement transformée depuis 2019 sous l'impulsion de son nouveau management. La marge opérationnelle a gagné 600 points de base pour atteindre maintenant 20%. Et la croissance organique a été de plus de 5% par an sur les 5 prochaines années. Et on pense que ça devrait même s'accélérer.
Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement sur ce titre ?
Alors, le point central, c'est qu'IMI est en train de devenir un play sur l'électrification. Avec l'explosion de la demande d'électricité dont vous parlez souvent, tirée par l'IA, les data centers et l'électrification de manière générale, comme GE Vernova et Siemens Energy ont des carnets de commandes qui sont pleins jusqu'à la fin de la décennie. Or, leurs turbines ne fonctionnent pas sans les vannes critiques d'IMI, notamment ce qu'on appelle les turbines bypass. Et donc, IMI est un bénéficiaire de second rang. La demande va lui arriver et lui arrive aujourd'hui avec un décalage important par rapport aux turbiniers. Et cela commence tout juste à se matérialiser dans les chiffres. Aujourd'hui, la partie power generation et le nucléaire représentent 14% du groupe. Et on pense que ça devrait monter à plus de 20% d'ici l'année prochaine. Et sur l'ensemble de 2025, les commandes de power generation en construction neuve ont déjà progressé de 25%. Et ça me fait une transition sur mon second point. La croissance que l'on voit aujourd'hui de la base installée va générer des revenus récurrents à forte marge, car la part d'aftermarket, qui est déjà passée de 35% à 45% du chiffre d'affaires en 10 ans, c'est-à-dire un point par an, va continuer d'augmenter. Plus ils installent de vannes neuves aujourd'hui, plus ils augmentent la rente qu'ils auront demain.
Et justement, qu'est-ce que vous attendez précisément de cet investissement sur le potentiel à venir ?
Bah, c'est un compounder, comme je viens d'expliquer, à une valorisation qui ne reflète pas encore sa qualité et sa croissance future. Le rendement des capitaux investis est bon, la conversion cash est bonne, le bilan est très simple. Ils viennent d'ailleurs d'annoncer un rachat d'actions de 500 millions de livres. Ça coche à peu près toutes les cases de ce qu'on peut attendre d'une cyclique de qualité. Et pourtant, le titre se traite à 20 fois les résultats. Ça a une décote par rapport à des comparables de qualité. Et ça ne nous paraît pas justifié. Donc, on joue à la fois la croissance du résultat et un peu de re-rating.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Donc, IMI, ça s'écrit IMI, hein, tout simplement, pour nous Français, Salim Alaoui, pour Moneta. Merci beaucoup, Salim, de nous avoir accompagnés et fait découvrir cette nouvelle valeur. Le CAC 40 gagne 0,1% en ce moment. On évoquait aussi Walmart qui forme ses salariés à l'optique, figurez-vous, et pour arriver à percer de plus en plus de marchés directement au plus près des clients. Intéressant, c'est un pari sur l'humain, là. On en parlait avec Éric Lafrenière tout à l'heure dans USA Today. Cette séquence est disponible. Ça y est, elle est en ligne en replay sur l'application BFM Business.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Et justement, les États-Unis, on y reste avec l'enquête JOLTS qui a été publiée il y a quelques instants. C'est l'apéritif avant le rapport sur l'emploi qui sera lui publié jeudi, exceptionnellement jeudi. Sylvain Bersinger nous rejoint pour BSI et Bersinger-Co. Bonjour Sylvain, ravi de vous retrouver. L'enquête JOLTS, qu'est-ce qu'elle nous dit de la dynamique du marché de l'emploi qui nous surprend favorablement à nouveau depuis quelques semaines, quelques mois? Est-ce que pour le mois de juin, c'est encore le cas?
Oui, bien, globalement, c'est dynamique. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au mois d'avant, mais le mois d'avant était déjà dynamique. Donc, on est toujours dans une économie américaine, un marché de l'emploi qui est dynamique, qui résiste. La crise énergétique a été globalement moins forte que ce qu'on pouvait craindre. Les marchés boursiers toujours élevés. On l'a vu avec SpaceX, l'engouement autour de l'IA, etc., qui est toujours dynamique. Donc, on est toujours sur des chiffres qui indiquent un maintien de la dynamique de la croissance et de l'activité économique américaine.
Oui, mais alors, sur les dernières semaines, par exemple, quand on regardait le rapport sur l'emploi, on disait c'est peut-être très conjoncturel quand même avec le mondial de foot. On voyait que dans l'hôtellerie-restauration, les créations de postes étaient nombreuses, mais il y avait le mondial de foot qui arrivait. Et le reste, c'était dans les services de santé. Donc le reste de l'économie n'était pas aussi dynamique que ce que les chiffres de l'emploi pourraient laisser à penser. Est-ce que pour juin, là, dans l'enquête JOLTS, on a des détails là-dessus ?
Alors, on a quelques détails. On voit que, par exemple, dans le commerce, c'est assez dynamique. Il y a une légère progression. Mais globalement, on est sur les mêmes chiffres que le mois précédent. Après, le poids du mondial de foot, bon, je pense qu'il faut quand même un peu le relativiser parce que l'économie américaine, c'est quand même une économie gigantesque, très importante. Et même si, voilà, médiatiquement, on voit tous ces matchs et on en aura un ce soir, mais je pense que l'impact macroéconomique de cet événement sur l'économie de la taille de l'économie américaine est quand même à relativiser.
On a aussi les chiffres de l'inflation en Europe ce matin du côté de la France et de l'Allemagne. Bah, on a quand même une bonne nouvelle, c'est que les prix ont tendance à retomber.
Oui, alors on s'y attendait un peu, hein, parce qu'en fait les prix depuis l'annonce de la réouverture du détroit d'Hormuz, les prix du pétrole avait quand même beaucoup baissé. Ils sont presque revenus, en fait, au niveau d'avant la guerre, au niveau de février. Ce qui est une surprise, hein. Je pense que peu d'analystes, moi-même compris, on s'attendait pas à une baisse si rapide des prix du pétrole. Donc, les prix à la pompe ont déjà commencé à baisser. Donc, assez logiquement, l'inflation énergétique a baissé. Et donc, l'inflation totale a baissé avec quelques éléments conjoncturels, nous dit l'INSEE, comme les soldes, par exemple, qui ont eu plus d'impact sur le mois de juin. Donc, on s'attendait effectivement à cette baisse de l'inflation. Peut-être pas aussi forte, hein. Là, c'est vrai qu'elle a baissé assez fortement. On est en dessous de 2% maintenant. Donc c'était attendu, mais l'ampleur de la baisse, aussi importante, n'était peut-être pas attendue.
Et ça impacte l'euro, du coup, qui recule avec cette inflation moindre qu'attendue. L'euro vaut 1,1414. Merci beaucoup, Sylvain, de nous avoir accompagnés. Sylvain Versager, régulièrement à nos côtés dans BFM Bourse. Wall Street est encore en hausse. Oui, le S&P gagne 0,3%. Meilleur trimestre depuis 2020 pour le S&P. Le Nasdaq 100 gagne 0,8%. Meilleur trimestre pour le Nasdaq 100 depuis 2020 également. Alors, si on regarde le bilan du premier trimestre, impressionnant quand même les variations qu'on observe. Wall Street, bien sûr, on va même pas vous parler des cartes mémoire en Corée du Sud ou aux États-Unis, complètement dingue. Mais ici en Europe, regardez la bourse de Milan, elle a gagné 16% elle aussi, rien qu'en un trimestre. Milan plus 16, Madrid plus 14, le CAC est derrière à plus 8%.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Une canicule peut en chasser une autre. Météo France a averti qu'une nouvelle canicule approchait à partir de ce week-end, alors qu'on ne connaît pas complètement l'ampleur encore. Est-ce qu'elle sera équivalente, un peu moindre, etc. Mais elle viendra quand même s'ajouter. Alain Pitous vient nous en parler. Monsieur Météo, bonjour.
Exactement.
Alain, senior advisor ESG. Non, mais tout ça a des impacts énormes quand même, et déjà perceptibles en France sur l'agriculture. Il se trouve que je suis allé sur l'ouest à La Rochelle ce week-end, à partir d'Angers, entre Angers et La Rochelle.
Terrible.
Mais c'est un truc de, on a l'impression d'être au milieu de l'Espagne au mois d'août, quoi. Ouais. C'est grillé, quoi. Bon, sujet de conscience, le climat, et en bourse, est-ce qu'on peut dire que ça y est, le climat devient un vrai thème d'investissement, comme la tech, les semi-conducteurs, l'électrification, voilà.
Alors oui et non, en fait, le marché a déjà, ne price pas ce genre d'événement, parce que généralement le marché il price un événement qui arrive. Mais le problème du climat, c'est quand ça arrive, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas d'instrument de couverture, vous pouvez strictement rien faire que d'attendre et puis d'espérer que les choses se passent bien si vous êtes pas couvert. Et en fait, c'est bien avant qu'il faut être prêt, en fait.
Oui, bien avant qu'il faut être prêt.
Et oui.
Donc, oui, ça tombe bien, c'est le principe du marché, toujours avoir un coup d'avance. Oui. Même sur le climat,
oui.
C'est d'anticiper un petit peu.
C'est difficile. Et en fait, on voit que, alors ça a déjà commencé, la réalité, c'est que on a l'impression que c'est quelque chose qui va nous tomber dessus, mais il y a déjà des éléments qui nous montrent que des choses arrivent. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, la Floride, il y a des endroits qui sont plus assurables, et quand un bien n'est plus assurable, il baisse de 20 à 40%. Alors, on pourrait penser que c'est le secteur de l'assurance qui va souffrir, mais la réalité, c'est que le secteur de l'assurance, il est parfaitement prêt. Lui, il a parfaitement bien géré ça, c'est-à-dire qu'ils ont pricé ce risque. Donc, soit ils prennent de la marge en vous en payant une assurance très élevée, soit ils vous retournent le risque pour que ça soit vous qui vous auto-assuriez, en fait. Et là, on se retrouve totalement dans cette problématique actuelle relative au climat, en fait.
On se retrouve avec, limite, des profiteurs de la situation, si je vous suis.
Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire que... Les assureurs, en fait, c'est un thermomètre. Eux, ils savent parfaitement gérer le... Oui, c'est un thermomètre, elle est bonne. Oui.
LDR.
Ils savent parfaitement gérer ce genre de risque sur long terme. Ça fait longtemps qu'ils font le calcul, hein. Moi, je sais qu'on avait des discussions avec des assureurs quand j'étais chez Amundi au début des années 2010. C'était déjà des sujets.
En même temps, ils font des maths. Hein,
oui, c'est ça. Ils font des maths, mais ne vous inquiétez pas. Eux savent parfaitement à quel moment il faudra prendre de la marge et à quel moment aucune marge ne suffira et qu'il faut retourner soit le problème au propriétaire, soit à des régulateurs quelconques, des assureurs en dernier recours, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire le contribuable qui va assurer le reste. Vous évoquiez tout à l'heure l'agriculture dans la région d'Angers, c'est ça, enfin après Angers, quand vous allez dans l'Ouest. Typiquement, à un moment donné, les assureurs qui vont plus pouvoir assurer ça, et les agriculteurs, et c'est normal, vont essayer de trouver une solution auprès de l'État. Il y aura que lui qui en dernier recours pourra faire quelque chose. Mais on voit bien que c'est pas infini, comme les ressources de l'État ne sont pas infinies. Donc il va falloir Et c'est une prise de conscience, mais ça met, j'entendais des politiques en ce moment qui parlent de plans climatiques, c'est au minimum à chaque fois 10 ans. Donc, on est sur quelque chose qui est très long terme.
Bon, les assureurs, du coup, bah oui, voient un potentiel dans tout ça, mais c'est le thermomètre, comme vous le dites, on ne va pas les accuser de... Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'à l'inverse, le marché sanctionne? Parce que les assureurs profitent, en bourse, je parle, qu'est-ce qui le marché sanctionne et vend, pour le coup,
alors, lié au climat? Alors, ça met beaucoup de temps, mais il y a deux éléments, enfin, il y a deux segments que je vois. Il y a tout ce qui est autour du pétrole. Hein. Quand vous regardez les valeurs pétrolières sur longue période, c'est une sous-performance notable par rapport, prenez un indice, un ETF, valeur pétrolière, dividende inclus, etc. Alors, pas Total, qui est un peu différent de ces des majors américaines, mais c'est un segment qui sous-performe. On est sur quelque chose qui fait, sur longue durée, 5-6% de performance. Là où l'indice fait plutôt, les indices larges font plutôt du 10-12. Donc ça, c'est le premier, c'est assez évident. Puis après, il y a les banques qui sont un gros fournisseur de ressources et de financement au secteur fossile, qui lui aussi, même si aux États-Unis il y a de belles performances, sous-performe l'indice large. Donc on est sur des choses qui divergent progressivement. Et ça ne ralentit pas. La divergence continue de s'écarter, en fait. Hein. Donc voilà, c'est le marché, il ne sanctionne pas, encore une fois, il ne sanctionne pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que quand, si, mettons, lundi prochain, on se retrouve avec une canicule de nouveau, les valeurs pétrolières américaines vont pas reculer de 5%. Mmh. Hein. Mais, encore une fois, c'est enclenché, en fait.
Alors, cela dit, pour bien se hedger, est-ce que c'est aussi simple que de se dire, bon, ben, j'évite les fossiles, et voilà, il ne m'arrivera rien? C'est peut-être un chouïa plus compliqué.
Alors, c'est plus compliqué et là aussi, on se retrouve avec du calcul. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a vu, alors c'est caricatural, mais au monde, avec des événements géopolitiques, on voit que les chaînes de valeur sont perturbées par des événements géopolitiques. Bien, en fait, le climat va progressivement avoir le même effet, c'est-à-dire que va impacter des chaînes de valeur sur toute sa complexité. Alors on pourrait penser, et là, par exemple sur la géopolitique, il y a un rapatriement des chaînes, d'une partie des chaînes de valeur vers l'Europe, mais on voit bien que ça aussi c'est pas idéal dans le climat. C'est-à-dire que vous évoquiez tout à l'heure la région d'Angers. Si vous êtes un agriculteur et dans l'agro-business, bah il faut pas tout avoir au même endroit parce que vous êtes soumis à quelque chose qui peut arriver à un seul endroit. Donc la situation va devenir extrêmement compliquée parce que les variables possibles sont extrêmement importantes. Mais encore une fois, il faut essayer de le prendre en compte le plus tôt possible.
Et les grands investisseurs, ils en tiennent compte ou pas dans leur choix d'investissement du climat?
Alors j'ai deux exemples en tête. Hein. C'est comme d'habitude le fonds norvégien. On regarde ce qu'ils font. Alors eux, ils ont fait quelque chose qui est, on va dire, assez simple en même temps. C'est-à-dire qu'ils prennent tout leur portefeuille régulièrement et ils regardent qu'est-ce qui se passe si la tonne de carbone, de CO2 est au-delà de 100 $. Et il regarde l'impact que ça a sur le titre, sur sa rentabilité, sur sa viabilité même. Donc vous avez également F2R, le fonds de réserve des retraites, hein, qui est un investisseur long, qui a également une approche autour de la résilience climatique. Et ça rejoint quelque chose, moi je regarde souvent un de vos intervenants, Axilia, Vincent Auriac, qui vient assez souvent. Oh, lui, c'est vraiment son raisonnement, c'est de se dire qu'est-ce qui se passerait si la tonne de CO2 devenait arriver à un prix tel, et ça impacterait le résultat. Donc là, on commence à être avec des raisonnements d'investisseurs qui prennent en compte ce phénomène-là. Encore une fois, ça met beaucoup de temps pour arriver.
Bon, émission d'investisseurs BFM Bourse, vous avez choisi deux valeurs dont vous estimez qu'elles ont, elles, un super potentiel lié justement à l'adaptation climatique.
Voilà, alors les deux ont des profils très différents. Il y a GE Vernova d'un côté et Veolia Environnement de l'autre, qui sont à la limite complémentaires, parce qu'il y en a une qui est très cyclique, qui va profiter de l'électrification, qui investit... alors aujourd'hui, ils font des turbines à gaz, donc on est un peu loin de quelque chose qui est extrêmement pur. Mais enfin, en tout cas, ils contribuent à l'électrification, ils investissent sur le nucléaire, ils investissent sur le renouvelable. Donc eux, assez cycliques, assez intensifs en capital. Donc attention à la volatilité de ce genre de titre, parce qu'aujourd'hui, ça se paye 45 fois les résultats, donc c'est quand même pas donné. Donc attention, hein, mais sur long terme, pourquoi pas? Parce qu'on pourrait revenir aussi à ce que font les grands investisseurs, c'est-à-dire que tout le monde fait la même chose, c'est qu'il y a un effet d'éviction sur les valeurs qui sont... pas bonne pour le climat, on va dire. Et puis, il y a un effet d'entonnoir sur les valeurs qu'ils sont. Et effectivement, en ce moment, on a quelques valeurs qui sont un peu chères par rapport à ça. Et on n'a pas ce phénomène-là sur Veolia Environnement, qui, lui, joue plutôt tout ce qui est autour de l'eau et le traitement des déchets, etc., qui va être extrêmement important dans la période qu'on va connaître, pour la période d'adaptation au changement climatique, avec des contrats à long terme qui permettent une certaine forme de résilience et une forme de visibilité assez bonne sur les résultats futurs. Donc les deux se complètent.
Ouais, puis la désalinisation,
l'une qui est plus agressive que l'autre.
Et la désalinisation aussi.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors ça aussi, ça va être un énorme enjeu.
Il nous accompagne en fil rouge. On vous retrouvera tout à l'heure à 17h pour la dernière demi-heure de cette séance. Alain Pitou, merci beaucoup Alain. Le CAC 40 gagne 0,1%. Dans un instant, on va se retrouver en famille. Sabrina Salgui va nous rejoindre. On va revenir sur Abivax en forte hausse de 38% et Kering, au contraire, lanterne rouge du CAC. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Le seul endroit où vous choisissez vraiment votre famille, c'est BFM Bourse, la famille à 16h30 chaque jour. Elle nous rejoint, Sabrina Salgui, bfmbourse.com. Bonjour Sabrina.
Bonjour Guillaume.
Et Antoine en fil rouge, Antoine.
Et oui. Bonjour Antoine.
Bonjour Sab.
Des temps hausses.
Oui.
Pour cette dernière séance du trimestre, et oui. Quel trimestre on est en train de vivre, franchement, magnifique. Le Nasdaq 100 a gagné 25% sur le trimestre, le S&P 17%, ils sont encore en hausse. Le Nasdaq gagne encore 1% aujourd'hui, puis à Paris, on gagne 8%.
8%, oui. On prend les 8% pour ce trimestre. Oui. Bon, on est en légère hausse, mais à Paris, contrairement aux indices américains, on est lesté par un secteur en particulier. Bien, c'est le luxe. Pourquoi ? Parce qu'il y a Kering qui pèse un peu sur la tendance.
Moins 7%.
Moins 7%, c'est pas neutre. Hein, parce que la société, elle a donné des indications avant sa période où elle doit se taire. C'est la quiet période avant les résultats semestriels qui seront fin juillet. Et des analystes, en fait, les commentaires de Kering ne plaisent pas forcément au marché.
Oui, c'est vrai. Avec peut-être des perspectives un peu moindres que ce que les investisseurs imaginaient. On en parlait avec Kathleen Gaillot tout à l'heure de Kepler. C'était à 16h et elle était relativement claire. Hein, pour elle, cette baisse de Kering n'était pas complètement illogique. Antoine, à part Kering, comment vous regardez le marché aujourd'hui ?
Je dirais, qu'est-ce que ça va être quand le luxe va se réveiller ? Parce que là, on signe notre meilleur trimestre en 2 ans. Oui. Et du côté de Wall Street, meilleur trimestre pour le marché américain de manière générale depuis 6 ans. Et en corollaire, le pire trimestre depuis 13 ans pour l'or. Moins 13% sur le trimestre.
Et donc
c'est dire un petit peu la disparité des performances sur le marché. En tout cas, pour les actions, pour l'instant, tout va bien. Tiens, à noter l'Euronext Tech Leaders, en plus de 28 aujourd'hui.
Oui, vous l'aimez bien, Antoine.
Je le donne tous les jours.
C'est notre Nasdaq.
Oui, c'est notre petit Nasdaq.
Voilà, soyons fiers de lui.
Petit, non, pas petit.
Il gagne plus de 2% aujourd'hui. Oui. Alors, on parlera justement de ce premier trimestre, deuxième trimestre qui s'achève. Oui. Quel bilan en tirer ? Il y en a eu des événements historiques pendant ce deuxième trimestre sur les marchés. On gardera lequel est sans doute le plus impactant. Andrea Toigny aussi nous rejoint pour Saxo. Bonjour Andrea. Content de vous retrouver. Le CAC gagne 0,1% plus 0,1% en clôture ce soir. Presque en clôture. Oui, j'ai une heure d'avance là. Plus 0,1%. Comment vous sentez la suite à 8378 points et les rapports de force dans le marché ? On termine un trimestre historique. Est-ce que vous sentez qu'on pourrait en ouvrir un nouveau trimestre historique ?
C'est vrai, hein, comme Antoine l'a rappelé, c'est le meilleur trimestre depuis 2024, donc c'est quand même plutôt positif déjà, ce qu'il faut noter. Sur la séance du jour, forcément, ce côté fin de mois, fin de trimestre, ça peut avoir un petit peu de... on peut voir quelques arbitrages, un peu d'hésitation. En plus, on a Kering qui laisse un peu la performance du CAC, mais c'est vrai que globalement, on retient quand même du positif, mais il faut quand même peut-être relativiser un peu cet aspect positif, parce qu'on est quand même toujours en train de sous-performer d'autres indices, que ce soit en Europe et évidemment aux États-Unis du côté du CAC. Donc il y a quand même toujours cette possibilité de faire plus, de faire mieux. On a eu des chiffres d'ailleurs qui ont été plutôt rassurants aujourd'hui sur l'inflation en Europe qui est ressortie en baisse, notamment en France. Donc ça, c'est plutôt des points positifs qui peuvent alimenter peut-être un sentiment un peu plus positif sur le CAC et à plus proprement parler sur la France. Donc du coup, il faut avoir encore, on va dire, cet espoir sur le CAC. Mais pour le moment, on n'a pas de flux ou de contre-mouvement négatif sur l'indice, mais on n'a pas non plus de flux acheteurs très puissants qui permettent vraiment de se dégager des zones des zones de résistance pour le moment. Donc on a, il y a quelques semaines, franchi une zone de résistance du 1259. On avait longtemps hésité autour de cette zone de résistance. Le fait de s'affranchir de cette zone, ça a été un premier point positif, mais c'est vrai qu'au-dessus de ce niveau, on a eu du mal à continuer. Et on est un petit peu toujours dans ce cas de figure-là, avec des niveaux de résistance aujourd'hui qui étaient déjà valables il y a quelques séances encore. 8450, 8500 points, c'est vraiment les deux résistances aujourd'hui à observer sur le CAC, et c'est des niveaux duquel on a vraiment du mal à s'affranchir. On a vraiment du mal à s'installer au-dessus de ces niveaux-là. Il faut qu'on ait encore ce carburant qui manque aujourd'hui sur le CAC 40. À l'inverse, on a des zones de support qui sont très très court terme, 8340, 8300, et on parlait du coup de cette ancienne résistance 8259. La zone d'alerte, elle est située à 8100 points, donc tant qu'on qu'on est au-dessus, on a ce potentiel de poursuite, hein, d'essayer de créer un momentum positif sur le CAC. Et c'est ce qu'il faut espérer justement sur ce troisième trimestre. Donc voilà, pour le moment, il y a beaucoup de choses qui vont être à digérer aussi tout au long de la semaine, notamment sur le plan macroéconomique, qui va avoir son importance aussi. La géopolitique s'est un petit peu retirée, donc peut-être qu'on aura un troisième trimestre qui va être un peu plus centré sur les résultats, parce qu'il y a des attentes qui sont très fortes sur les publications d'entreprises, mais aussi sur la macroéconomie qui va reprendre son droit avec peut-être des décisions importantes de banque centrale d'ici la fin de l'année.
Alors, parlant banque centrale, on va parler un peu de monnaie, et il y a l'euro-dollar en tout cas qui a l'air de bien se caler sur 1,14. Il y a eu quelques points en dessous, mais pour l'instant sans lendemain. Est-ce qu'1,14 c'est un niveau stratégique qui peut être conservé sur le long terme?
Oui, 1,14 c'est un peu un niveau de pivot aujourd'hui, hein. Ça peut même être considéré comme un niveau de support. On est légèrement au-dessus de ce niveau des 1,14, surtout que le niveau de support qui suit derrière, il est un peu plus éloigné, hein. Le vrai gros niveau de support sur cette paire euro-dollar, il est à 1,1160, et c'est cette zone-là qu'il va falloir réellement surveiller. Alors oui, il y a des niveaux intermédiaires, 1,1275 par exemple, c'est un niveau intermédiaire à surveiller sur l'euro-dollar. Et à l'inverse, on a cette résistance à 1,15. C'est là aussi un niveau qui est important. Au-dessus d'un 15, on a un biais qui est légèrement plus positif, mais attention quand même, on a fait un grand chemin pour casser ce niveau d'un 15 et on est allé sur des points assez bas la semaine dernière. Donc du coup, il y a quand même une pression qui est plutôt à la baisse sur cette paire euro-dollar, mais encore une fois, il y a beaucoup de changements, notamment à la tête de la Fed avec une forward guidance qui a complètement sauté, et ça va rajouter énormément de volatilité autour de la macroéconomie. Et puis on a aussi une BCE qui se montre un petit peu moins stricte en matière de politique monétaire sur les derniers discours qu'on a pu entendre, notamment de Christine Lagarde. Donc il faudra suivre les anticipations de marché, c'est toujours une baisse de taux d'ici la fin une hausse de taux d'ici la fin de l'année du côté de la BCE, même si elle est pricée de manière un peu moins importante. Et on a un peu plus d'une hausse de taux du côté de la Fed. Donc il faudra surveiller justement ce schéma du côté des banques centrales, Fed et BCE, qui va déterminer de manière assez forte la parité, cette parité euro-dollar. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, attention à la volatilité autour des données macroéconomiques, parce que maintenant que les marchés ne peuvent plus se nourrir de la forward guidance de la Fed, il va y avoir beaucoup plus de volatilité, de réaction autour des données macroéconomiques qui seront publiées.
Merci beaucoup André Atouini, qu'on retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure. Ce sera à 17h35 depuis les bureaux de Saxo. Vous faites tous partie de cette famille BFM Bourse. Voici la question du jour sur X et LinkedIn, nos réseaux sociaux. C'est la fin d'un premier semestre historique en bourse. Quel a été l'événement le plus marquant pour vous pour ce deuxième trimestre? Est-ce que ça a été le yo-yo pétrolier avec la guerre en Iran, l'IPO de SpaceX, l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed? Il y en a eu des événements. Et pourquoi pas l'envol de Micron, Samsung et Skynix. Bref, l'incroyable explosion haussière des cartes mémoire. Quel a été pour vous l'événement le plus marquant de ce deuxième trimestre, Sabrina?
Est-ce que je vais vous étonner en disant ma réponse? Est-ce que je vais vous étonner, mon cher Guillaume et mon cher Antoine? Eh bien, bien évidemment, c'est l'IPO de SpaceX, hein, qui est un événement pour, à mes yeux à moi, hein, qui est vraiment l'événement le plus marquant de ce trimestre. Pourquoi? Parce que c'est une introduction en bourse qui a été hors norme, mais vraiment à tous les étages, hein, que ça soit les montants levés, la façon dont ça a été marketé, aussi le fait que les grands indices, les opérateurs d'indices déroulent le tapis rouge et font en sorte de modifier un peu leur méthodologie d'indice pour dérouler le tapis rouge à du Nasdaq, à du SpaceX, ou Anthropic et OpenAI. Donc rien n'est banal dans cette introduction en bourse, rien n'est banal pour SpaceX en tant que société cotée, parce que la communication aussi est particulière, hein, et ils ont décidé de se priver des wires pour communiquer sur leurs résultats. Ils préfèrent passer par contrôler et aller sur X, leur site internet. Donc SpaceX, pour moi, c'est une entreprise, et cet IPO est vraiment pas banal à tous les égards.
C'est sûr, et il intégrera ce titre Nasdaq le mardi prochain.
Le Nasdaq 7 juillet, le 7 juillet.
Bon, premier semestre historique, on aurait pu ajouter la chute de l'or aussi. Vous, Antoine, qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Moi, c'est plus les semi-conducteurs. Les Skynix, les Samsung. Alors déjà, ça, à leur niveau local, ça a complètement bouleversé le paysage boursier du côté de la Corée du Sud, du côté de l'Asie de manière générale, parce que les trois plus fortes pondérations en Asie désormais, c'est Skynix, c'est Samsung et c'est TSMC.
Skynix a gagné au premier semestre 240%.
Voilà.
Oui, et voilà.
Ça a complètement changé le paradigme du côté des sociétés de semi-conducteurs françaises, hein, qu'on disait à la traîne de l'innovation et tout, etc. Bon, on a quand même STMicro qui gagne 134% en un trimestre, quasiment le même score pour Soitec. Il y a un paradigme qui est en train de changer grâce aux semi-conducteurs. Et c'est d'autant plus intéressant que cette vague est alimentée par une espèce d'explosion des prix sur la DRAM, donc sur la mémoire vive. C'est assez rare qu'on ait le même phénomène qui se produise avec 20 ans d'écart. On sait comment ça s'est passé, hein, la première explosion des prix de la DRAM. Ça s'était effondré ensuite et il y a la moitié des acteurs industriels qui avaient mis la clé sous la porte. Donc là, en espérant que l'IA soit une dynamique suffisamment porteuse sur le long terme pour assurer des débouchés à ces sociétés qui prennent vraiment une place centrale dans les économies de certains pays, et notamment la Corée, hein, bien sûr.
Oui, et les semi-conducteurs qui s'étaient envolés en plus de mal depuis quelques séances, parce que ces acteurs des cartes mémoire, eux, ont pris le relais, effectivement, c'est les nouveaux champions. Alors, on verra si les semi-conducteurs vont pas le redevenir rapidement, effectivement, mais Micron, SK Hynix, Samsung, incroyable deuxième trimestre. Oui. Il y a eu l'IPO SpaceX, vous le disiez, Sabrina. Il y a eu l'arrivée de Kevin Warsh, c'est quand même un événement, on n'y pense même pas, parmi les grands événements, et pourtant, c'en était un. Le yo-yo du pétrole avec la guerre en Iran, il s'en est passé des choses et on aurait pu ajouter l'or, l'once d'or qui s'est cassé la figure. Quel deuxième trimestre on est en train de clore? Alors la question c'est, est-ce que le prochain trimestre qui va s'ouvrir dès demain nous offrira autant de potentiel? On l'espère, hein, les chiffres d'inflation en zone euro sont déjà en train de ralentir nettement. C'est quand même le chiffre du jour. L'inflation en France et en Allemagne ressort inférieure aux attentes et ralentit très nettement. On en parlait dans l'Écho du Monde tout à l'heure avec Sylvain Bersinger. L'Écho du Monde est disponible en podcast et replay. Mais du coup, l'euro recule face au dollar cet après-midi. C'est un fait marquant du fait de cette baisse de l'inflation. On parie peut-être un peu moins sur d'autres hausses de taux de la BCE. L'euro vaut en ce moment 1,1419. Vous le sentez bien ou pas ce troisième trimestre qui va démarrer demain, Sabrina, Antoine.
Moi, je le sens pas bien.
Vous le sentez pas bien ce troisième trimestre?
Je vais partir.
Je vais faire le lien, Antoine.
Hein?
Non, c'est pas grave. Oui.
Allô? Je vais partir l'été, l'esprit pas super tranquille. Hein? Ça me fait penser à ces étés où on part le cœur léger en se disant que les marchés vont bien et où tout se casse la figure.
Au mois d'août.
Parce que la Banque du Japon a fait une déclaration. On est quand même sur un record de faiblesse du yen qui date de 26 ans. Enfin, c'est... Non, que dis-je ? De 46 ans.
Oui.
Donc, il y a quelques déséquilibres techniques et structurels qui sont en cours sur le marché. Et si jamais il y a le moindre grain de sable dans la machine IA, ça risque d'aggraver un petit peu la note. N'oublions pas que tous les capitaux qui sont investis, tous les investissements des particuliers, des grands institutionnels sont beaucoup pris avec des effets de levier, notamment en Asie. Et les effets de levier, on sait ce que ça donne quand ils sont utilisés de manière excessive. Et là, il y a énormément de banques qui mettent ça en exergue. Donc... ouais, j'ai un petit sentiment de... Bon, je vais être optimiste. Mais s'il y a des choses éventuellement à solder, et s'il y a du vilain, ça pourrait être cet été.
Non, mais ça pareil, j'aimerais bien que ça se passe, qu'on ait un été plutôt tranquille sur les marchés. Mais alors, on va voir les résultats semestriels, hein, trimestriels, semestriels, qui vont être un peu le juge de paix. On va voir si les entreprises tiennent ou vont aller sur la bonne voie pour tenir leurs engagements annuels. Ça va être quand même le juge de paix. Aussi, effectivement, on est sur des records sur les indices. Donc, il y aura quand même un peu de nervosité. Il suffit qu'effectivement, et comme le dit justement Antoine, un peu de nervosité sur la thématique de l'IA. Et aussi, on se souvient, en 2024, c'était ça, le coup de grisou sur les marchés asiatiques. Oui. J'étais en plein dedans. C'est effectivement, quand on se prend un lundi 9 août, je crois, un moins 12% sur les marchés, sur la bourse de Tokyo, mes souvenirs sont bons. Eh bien, c'est vrai qu'avec peu de volatilité, donc ça donne lieu à beaucoup de volatilité sur les marchés, effectivement. Bah, le mois d'août, c'est un mois d'un peu de tous les dangers.
À suivre, ça démarre demain, le troisième trimestre.
Eh oui.
Abivax, il faut qu'on en dise un mot quand même, parce que c'est l'une des plus fortes hausses du marché parisien aujourd'hui. On est dans les biotech, 38% de hausse après avoir annoncé Abivax ses dernières données cliniques complémentaires. Elles sont positives?
Elles sont positives, effectivement, Guillaume. Abivax, sur les marchés après des données complémentaires positives pour une étude clinique en phase avancée. Donc, c'est la dernière étape avant une potentielle commercialisation. Elle porte sur un candidat médicament pour traiter une maladie bien précise, une maladie inflammatoire chronique de la muqueuse intestinale. Et elle touche énormément de personnes, 1 million de personnes aux États-Unis, mais aussi autant en Europe. Donc, c'est quand même assez crucial. Hein, au début du mois de juin, en fait, l'action elle avait perdu plus de 43%. Gros coup de crisou sur cette entreprise. Pourquoi ? Parce que la première partie de ses résultats de phase clinique avancée, il y avait un petit élément qui avait un peu crispé les investisseurs. C'était quoi ? C'était 3-4 cancers, mais qui n'étaient pas liés au traitement lui-même. Mais c'était un élément qui avait jeté un peu le doute sur une potentielle commercialisation du médicament. Donc là, Abivax rassure avec ses nouvelles données complémentaires.
Alors c'est bien, plus 39. Bien sûr. Est-ce que la hausse doit aller plus loin ? Quelles sont les prochaines étapes pour Abivax ?
Eh bien, c'est la mise sur le marché, comme je l'ai dit, de ce produit. Hein. Et Abivax prévoit toujours de déposer une demande de mise sur le marché aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Et cette étape, elle pourra donner quand même des petites envies prédatrices hein, de grandes entreprises pharmaceutiques, hein, parce que c'est moins risqué pour elles d'acheter une entreprise qui a un portefeuille de produits en phase avancée, voire sur le marché, qu'une entreprise en phase clinique. Soit de les développer elles-mêmes, ça coûte beaucoup plus cher. Là, au moins, on a une entreprise qui a un produit clé en main. Voilà, c'est moins risqué pour elles. On le rappelle, hein, le titre, il gagne 1700% sur un an grâce à cette percée thérapeutique sur cette maladie inflammatoire, mais aussi avec ce vent de spéculation lié à un potentiel rachat. On l'avait vu au mois de mars, hein, on voyait Abivax hein, dans les bras de AstraZeneca, un peu plus tôt c'était Eli Lilly. Bon, enfin bref, et surtout, eh bien, c'est vrai que dans ce milieu de la santé, eh bien, il y a quand même des opérations de fusion-acquisition. Un lundi, il y a Ipsen oui. Qui a annoncé le rachat d'une biotech américaine qui a des produits en phase avancée dans le domaine de l'oncologie.
Article complet. Sur ce secteur et Abivax, la folle hausse qui n'est pas terminée. Tout à l'heure, les experts de Kepler nous disaient qu'ils imaginaient bien après l'annonce de ce matin. C'était
lundi soir après la clôture américaine.
Ouais, oui. Ils imaginaient bien un titre qui doublerait en bourse. Donc plus 39, a priori, c'est pas terminé. Hein, nous disait tout à l'heure Kathleen Gaillot aussi a retrouvé. Donc c'est en replay, c'était à 16h. Il est 16h48. Chaque jour, un expert de marché nous rejoint pour combattre les idées reçues. Aujourd'hui, c'est Aymeric Guidé, directeur de la gestion de Pergam, qui nous retrouve en fil rouge d'ailleurs. Rebonjour Aymeric. Il y a Clia qui monte, le reste est complètement à tonne en bourse. C'est ce que beaucoup pensent, mais pas vous. Vous vous dites bullshit. Vous foudroyez, Aymeric, cette idée qu'en dehors de l'IA, cette année, il était impossible de faire des performances.
Exactement. Il y a plein d'autres secteurs qui montent, plein d'autres idées de valeur à avoir et à regarder. Parce que c'est vrai que quand on parle aujourd'hui des marchés, tout converge vers l'IA. Il n'y a plus que ça. C'est le secteur à avoir. Et si on ne l'a pas, on ne fait pas de perf. Oui, mais en fait, non. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres secteurs. On regardait, typiquement, là, vous parliez des biotech. Les biotech se réveillent en ce moment. Aux États-Unis, l'indice biotech a encore pris 8% la semaine dernière. C'est un vrai réveil. Alors, là, on est sur un secteur qui, typiquement, profite un petit peu des effets de l'IA, puisque ça va bénéficier assez fortement en termes de productivité, gain de productivité de l'IA.
Ça facilite.
Exactement. Donc c'est vraiment un bon secteur qui est une conséquence de l'intelligence artificielle. Mais à la fin de la journée, c'est pas de l'IA. On est encore sur un secteur avec de la recherche, des médicaments, donc un peu en dehors de cet univers-là. Et qui marche bien en bourse.
Donc, Aymeric, vous dites que l'IA, hors l'IA, cette année, il n'y a pas grand-chose, mais si, alors c'est quoi les secteurs qui sont en forme ?
Alors, mais vraiment pas lié à l'IA, quoi. Sans lien avec l'IA.
Sans lien
à l'IA. Est-ce possible de performer sans lien avec l'IA ? Parce que la santé, il y a de l'espoir lié à l'IA. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
On en parlait un peu tout à l'heure, mais le pétrole, 20% de hausse quand même depuis le début de l'année. Alors, aidé évidemment par, par une petite guerre, donc malheureusement. Mais ça reste un secteur qui performe bien. On pourrait parler également du secteur des banques. Les banques sont en hausse de 15% depuis le début de l'année, quand même. On a une structure de taux qui est meilleure, on a un peu de volatilité sur les marchés, donc c'est favorable aux valeurs financières. Donc il y a d'autres secteurs, encore une fois, qui sont performants, qui surperforment même le marché américain, même le Nasdaq. Donc oui, il n'y a pas que l'IA dans la vie.
Oui, il n'y a pas que l'IA dans la vie. Il n'y a pas que les États-Unis non plus. Il y a des indices qui se portent bien. Alors c'est vrai que nous, meilleur trimestre en 2 ans... Voilà, ça va, c'est pas une performance mirobolante, mais c'est quand même pas mal. Et puis du côté d'autres places européennes, et puis du côté de l'Asie, il se passe des choses.
Exactement, il y a plein de choses, aussi bien le Japon fait une année encore exceptionnelle, largement à deux chiffres. On a la Chine, en dehors des grandes valeurs chinoises, toutes les petites valeurs chinoises sont largement positives. Et on a l'Asie au sens large qui fait 15% de hausse. On a beaucoup d'autres zones géographiques, même l'Italie, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est une zone qui marche très très bien sur les marchés depuis plusieurs années. Donc encore une fois, on a un tropisme français, puisque le CAC est quand même en hausse, mais une hausse assez faible, ouais, finalement, depuis le début de l'année, alors que le reste du monde, bah, marche quand même relativement bien. Et il n'y a pas que les US, il y a vraiment d'autres zones géographiques qui marchent bien et qui sont autant de diversification possible pour l'investisseur que de rester franco-français et
Milan,
ou États-Unis.
Milan, depuis le début de l'année, la bourse de Milan, c'est plus 16%.
Oui, c'est ça, 16 ou 17%. Alors, il y a pas mal d'histoires qui se passent en Italie, notamment tous les rapprochements bancaires qui ont mené la cote assez haute. Mario Draghi le poussait également aux investissements dans les valeurs italiennes. Ça marche. Et au final, l'investisseur qui sort de sa zone de confort, qui est son marché domestique, et la TQS, pour être très, très pragmatique, parce que c'est souvent ça qu'on met dans les portefeuilles par réflexe, parce qu'on investit ce dans quoi on a la meilleure connaissance, où on arrive à mieux appréhender le marché. Mais en fait, il y a plein d'autres zones qui peuvent permettre à l'investisseur de réaliser de la performance. Et on le voit même aux États-Unis, tout n'est pas uniforme. Les Mag 7 sont négatives, le S&P 500 fait 8% de hausse, mais les petites valeurs aux États-Unis, c'est 20% de hausse cette année. Donc, il y a vraiment des pans de la cote qui méritent aujourd'hui d'être regardés et qui sont en dehors de toutes ces histoires d'intelligence artificielle, qui ne sont pas uniquement liées à l'intelligence artificielle.
C'est parce que justement, les petites, vous avez évoqué les petites et moyennes capitalisations en filigrane, mais c'est justement parce que ces valeurs, elles avaient été délaissées et la valorisation, elles ont été vraiment au tapis. Donc, pour le coup, je pense qu'il y a un effet de rattrapage sur ce point de la cote.
Très important. Ça fait des années que les petites valeurs sont délaissées et que les investisseurs ne reviennent pas. C'est une histoire de flux. Hein, les petites, les sociétés, c'est plus risqué. Ça, il faut être très, très clair avec ça. Mais ça fait 3-4 ans qu'on a une sous-performance permanente quasiment de ces secteurs-là. Et depuis 6 mois, 1 an, on voit que ça se réveille enfin, que des flux reviennent sur la classe d'actifs. Et donc, oui, ça y est, ça repart. Et là, le potentiel, pour le coup, est important parce que les multiples de valorisation moyens sur les petites valeurs, bah, ils restent quand même inférieurs au marché. Donc évidemment, il faut toujours les prendre dans leur ensemble, mais que ça soit en France ou en Europe, on a plutôt des sous-valorisations et donc du potentiel de revalorisation à la hausse.
D'accord. Donc vous voyez encore un deuxième semestre fantastique à venir ou pas, là, après ce qu'on a vécu depuis le 1er janvier, qui est déjà dingue?
Mais il y a quand même des forces de rappel qui peuvent militer pour avoir un deuxième semestre plutôt positif. La première, c'est que les élections de mi-mandat, ça va normalement obliger Donald Trump à être favorable à la consommation et à pousser la consommation des Américains. Donc, qui dit pousser la consommation des Américains dit hausse du PIB, hausse des marchés financiers. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est un soutien fort à potentiel à la hausse. Deux, peut-être nos banques centrales vont être un tout petit peu plus accommodantes. Il y a un peu moins de risque d'inflation. Donc, qui dit banque centrale, là aussi, plus accommodante, normalement, un peu plus de flux là aussi vers les marchés actions ou même vers les marchés, ça sera même favorable pour les marchés de taux. Donc encore
une fois, l'inflation en France et en Allemagne ralentir au mois de juin. Alors on a le chiffre aujourd'hui assez impressionnant.
Ouais. Exactement. Donc ça c'est tout normalement plutôt des bonnes nouvelles pour l'investisseur. Et puis quand on regarde les entreprises, on va avoir les chiffres du deuxième trimestre. On va voir l'impact qu'aura eu le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Potentiellement, les premières indications qu'on semble avoir, c'est que ben, ça a tenu, que les chiffres, notamment de la consommation aux US, ne sont pas si mauvais que ça. En Europe, il n'y a pas eu de grosses problématiques dans les chaînes d'approvisionnement pour la production. Donc, normalement, ça tient. Le conflit n'a pas été suffisamment long pour que ça ait un impact très fort sur les entreprises. Les entreprises sont de mieux en mieux gérées aussi. Donc, c'est là où, aujourd'hui, on a un potentiel plutôt... on est plutôt positif sur la deuxième partie de l'année.
Trop positif ou pas? Enfin, il y a quand même aussi des interrogations. Les niveaux d'endettement des États, les niveaux obligataires quand même qui restent élevés, les taux obligataires. Enfin, tout ça reste une réalité malgré tout, Émeric.
La dette est infinie, elle ne sera jamais remboursée. Okay. Les Américains l'ont bien compris il y a 20 ans.
Mais le service de la dette aussi est un peu infini, le coût de la dette.
Alors, le service de la dette, ça devient problématique aux États-Unis, surtout quand on se fâche avec tous ces banquiers. Donc ça, c'est une histoire un peu compliquée aux États-Unis, mais ils ont la capacité à lever de l'argent de manière endogène, un peu à la japonaise, qui avait finalement la dette des Japonais à 200% de dette sur PIB, est détenue par les Japonais. Donc il y a encore des capacités à pouvoir finalement être présent et répondre présent sur les émissions de dette américaines et payer le service de la dette. Donc c'est pour ça que c'est un problème. C'est un problème si vous avez plus de croissance et si vous avez une inflation qui est trop forte. Donc des taux beaucoup plus hauts. Aujourd'hui, on voit que l'inflation a plutôt tendance à ralentir, y compris aux États-Unis. que les taux ne montent plus et restent quand même sur des niveaux élevés, mais ne montent plus. Donc là aussi, c'est plutôt bon. Et là, pour le moment, la croissance tient aux États-Unis. Donc encore une fois, c'est des sujets qu'il faut regarder, parce que ce n'est pas dénué de risque, en effet, mais pour le moment, c'est maîtrisé. Et les banquiers centraux, et notamment aux États-Unis, ils maîtrisent bien leur sujet. Donc c'est plutôt, encore une fois, une bonne nouvelle pour l'investisseur.
Alors, vous restez avec nous, Aymeric, il nous reste 2 minutes à passer en famille, parce que nos auditeurs et téléspectateurs aussi ont leur mot à dire, et on traque, on détecte chaque jour vos posts sur les réseaux sociaux, on les récompense, on décerne un laurier au meilleur poste. Aujourd'hui, Sabrina, on a repéré ce poste de Sonali Bazak, elle est chef stratégiste de eCapital. Elle nous dit que, oui, il y a eu beaucoup d'introductions en bourse ces dernières semaines, et celles à venir en plus d'Anthropique, mais malgré toutes ces introductions en bourse prévues sur l'ensemble de l'année, on est loin des grandes années des IPO malgré tout quand on regarde le nombre d'introductions. Le mot nombre est important.
Alors on est loin déjà dans un passé plus proche de 2021. 2021, oui. Ça a été quand même la grosse année en IPO. Aux États-Unis, on était à 250. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un phénomène, il y a une grosse mode sur les marchés dans les années. En 2020-2021, c'était les SPAC. Alors, il y a eu une explosion. Il y avait énormément de SPAC.
Parce qu'il y a 5 ans déjà, ça passe.
Vite. Hein. En fait, les 5 ans de cette bulle-là. Mais il y a eu un coup d'arrêt réglementaire sur les SPAC. Hein. On a dit qu'on va siffler la fin de la partie sur les SPAC, ce qui a fait que, avec les hausses de taux, etc., le marché des IPO aussi, en 2022, ça s'est effondré, ça c'est clair et net, mais on est encore loin. Et là, c'est 1999, c'était en plein boom Internet, on était à 400 opérations, enfin, c'était la folie à cette époque. C'est vrai que 2021, en fait, même en France, c'était le point de repère des meilleures années sur les introductions en bourse. Je crois qu'on était 2021. À 36 ou une quarantaine d'intros cette année-là en France.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a l'opération SpaceX, il va y avoir Anthropique, c'est gigantesque, mais en nombre d'introductions, ça reste des exceptions en réalité.
Oui, il y a aussi des logiques de... C'est le financement des entreprises, en fait, qu'il y a derrière les introductions en bourse. Il y a plein de méthodes pour qu'une entreprise se finance. Il y a évidemment le financement bancaire, mais il y a plein d'autres méthodes. Avec toute la partie du crédit privé, de la dette privée, et après du private equity. Et au bout d'un moment, les fonds de private equity aussi doivent mettre sur le marché.
C'est ça.
Parce qu'ils ne peuvent pas garder. Ils ont souvent une durée fixe. Et il y a un moment, il n'y a pas forcément que des fonds de continuation. Il y a une méthode qui peut être l'introduction en bourse et qui s'offre aux investisseurs comme une solution. Alors, il y a des périodes où il n'y a pas besoin d'aller en bourse parce que souvent, les entreprises, elles essaient d'éviter d'aller sur les marchés. Et après, il y a certaines pour qui c'est une solution qui peut être magique et très intéressante parce qu'elle permet aussi d'obtenir de la liquidité pour quand vous avez d'autres actionnaires qui ont besoin de vendre à un moment donné. Donc, c'est une solution qui peut être très, très intéressante. Donc, il y a plein de contextes qui fait que les introductions en bourse peuvent revenir, à la fois des contextes structurels, parce que les taux d'intérêt, parce que ceci, parce que cela, mais aussi des phénomènes techniques en fonction des investisseurs qui ont besoin ou pas de liquidité et les marchés financiers.
Le CIF français, hein.
Et voilà, et les marchés financiers, c'est une vraie solution pour offrir de la liquidité aux investisseurs.
Et en Chine, ils le comprennent, hein, parce que les particuliers chinois qui n'investissent plus dans l'immobilier, maintenant le font dans les introductions en bourse. Ils investissent de plus en plus en bourse. Et comme il y a moins de private equity là-bas que chez nous, et encore moins qu'aux États-Unis, la bourse en ce moment voit les IPO se multiplier avec des particuliers très présents.
Tout à fait. Et de plus en plus, les Chinois sont de plus en plus investisseurs sur les marchés financiers, ce qui peut soutenir aussi toute la partie action chinoise.
Ah, ils voient l'avenir en rose. Aymeric Didet. Merci beaucoup, Aymeric.
Merci.
Directeur des gestions de Pergam, bon retour. Sabrina Sadghi, bfmbourse.com. Salut Sabrina.
Salut Guillaume.
L'article sur Abivax toujours disponible. Et nous, avec Antoine, on vous retrouve dans un instant, dans moins de 2 minutes, pour entrer, Antoine, dans la dernière demi-heure de cette séance. La dernière du deuxième trimestre. Oui. On va le regretter, ce deuxième trimestre. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.